VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 15h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et du chef de milice Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas. La défense de Charles Blé Goudé, surnommé le général de la rue, a affirmé aujourd'hui que l'ex-ministre de la jeunesse de Laurent Gbagbo n'était pas l'instigateur des graves violences dont il est accusé devant la CPI. Charles Blé Goudé n'est pas un général de la rue, c'est un homme qui a essayé d'arrêter la violence, a martelé son avocat, le néerlandais Geert Jan Knoops, dans sa déclaration liminaire. La défense a diffusé une vidéo montrant Blé Goudé en compagnie d'un activiste américain, ancien proche du leader américain pour les droits civiques Martin Luther King, dans lequel l'ex-ministre de la Jeunesse déclare à son interlocuteur « Je vous invite à prier pour toutes les communautés ». Selon Maître Knoops, son client a essayé d'unifier son peuple, d'appeler au dialogue. Messieurs Gbagbo et Blé Goudé sont poursuivis à la CPI pour leur rôle présumé dans la crise post-électorale ivoirienne, née du refus de l'ex-président Gbagbo de céder le pouvoir à Alassane Ouattara, reconnu vainqueur de l'élection présidentielle de fin 2010 par la communauté internationale. Afrique maintenant, au Nigeria, le bilan de l'attaque de samedi à Dalori près de Maïdougouré est révisé à la hausse. Les autorités parlent d'au moins 85 morts dans cette attaque attribuée aux djihadistes de Boko Haram. Eric Manirakiza.
D'une cinquantaine de morts, le bilan est passé à au moins 85 à Dalori selon le docteur Haruna Mcheliya, commissaire à la santé pour l'état de Borno. Balouma Maloum, un rescapé, affirme avoir vu dans ce village au moins 20 cadavres tellement calcinés qui ne sont pas identifiables et que 15 villageois sont toujours portés disparus. Moussa Adamou, membre des milices d'autodéfense, a parlé de plus de 100 morts, mais ce chiffre n'a pas pu être vérifié. Le président Muhammadu Buhari doit se rendre mercredi à Strasbourg, s'adresser au Parlement européen. Il se rendra ensuite le lendemain à Londres pour assister à une conférence de donateurs pour la Syrie et plaider pour plus de soutien au Nigeria et aux autres pays en première ligne dans la lutte contre le terrorisme.
Afrique centrale maintenant, Congo-Brazzaville, Amnesty International appelle les autorités à libérer immédiatement et sans condition l'opposant Paulin Makaya, président de l'Organisation Unie pour le Congo, qui est en prison depuis plus de 2 mois. À l'approche de la présidentielle du 20 mars, Paulin Makaya est poursuivi pour avoir organisé et participé à une manifestation non autorisée le 20 octobre 2015, ainsi que pour détention illégale d'armes de guerre et complicité d'incendie d'édifices publics. L'organisation de défense des droits de l'homme basée à Londres estime que M. Makaya est un prisonnier politique. Retour sur le 26e sommet de l'Union africaine qui s'est terminé ce week-end à Addis Abeba. Les chefs d'État présents ont renoncé à envoyer une force de maintien de la paix au Burundi et ont choisi plutôt de privilégier la discussion avec Bujumbura. C'est une grande déception pour les Burundais opposés au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Idriss Fall a recueilli la réaction de Gordien Nyongeko, secrétaire exécutif du Forum pour la conscience et le développement, ou FOCODE.
C'est une réaction d'indignation parce que cette organisation panafricaine a raté une occasion historique pour pouvoir mettre à son actif une réalisation sanitaire en refusant la mission pour la protection du Burundi Maprabou. L'organisation panafricaine a raté une occasion historique. D'un autre côté, on n'a pas été surpris parce que la plupart des chefs d'État ont refusé de créer un antécédent qui pourra aller poursuivre parce que certains sont hantés par l'esprit de dépasser les mandats, de violer les constitutions. Comme on le disait, là, c'est... En plus, la décision qui a été prise est incompréhensible, voire inquiétante. Vouloir dire que pour secourir le peuple burundais qui est en train d'être tué, arrêté, exécuté, torturé, dire qu'ils doivent demander l'autorisation du bureau pour pouvoir secourir les citoyens burundais, c'est historique, c'est incompréhensible et ça dépasse toute logique.
Maintenant, quelle solution pour le Burundi, selon vous?
Pour le Burundi, je crois que et les Nations Unies et l'Union africaine qui étaient des institutions internationales garantes de la sécurité dans le monde, comme elles se montrent très réticentes à pouvoir secourir le peuple burundais, je pense que la première chose, c'est qu'il faut qu'ils assument la responsabilité de ce qui va arriver au peuple burundais. Il y a un génocide qui a commencé à petit feu. Tous les signaux montrent que si rien n'est fait d'un moment à l'autre, il peut y avoir un embrasement de tout le Burundi et aussi avec des conséquences au niveau de la sous-région et voire au niveau du monde entier. Dans ce cas, il faut que ces institutions puissent assumer la responsabilité.
Est-ce qu'il n'y a pas de solution de discussion soit à Arusha ou bien à l'intérieur du Burundi?
Ce n'est pas concevable ou compréhensif, c'est que à la fois le pouvoir de Bujumbura refuse une forme de protection des citoyens qui sont en train d'être tués par les forces de sécurité, et d'un autre côté, il refuse le dialogue qui est la seule solution incontournable pour pouvoir rétablir l'ordre dans le pays. Plus de 9 mois, s'il y a des déclarations, s'il y a des missions, s'il y a des initiatives théorique. Et je pense que le moment des initiatives théoriques était terminé, qu'il faudrait passer par des actions concrètes.
Gordien Nyongeko, secrétaire exécutif du Forum pour la conscience et le développement, ou FOCODE, au Burundi.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Tunisie, 3 djihadistes présumés ont été tués aujourd'hui, un membre des forces de sécurité blessé dans le cadre d'une opération antiterroriste dans la région de Gabès, dans le sud du pays. C'est ce qu'affirme le ministère de l'Intérieur. Et toujours en Afrique du Nord, la crise en Libye, l'ouverture de nouveaux fronts dans ce pays contre le groupe État islamique est désormais sérieusement envisagée par les États-Unis et d'autres États qui se réunissent aujourd'hui à Rome. Mais une intervention militaire s'annonce délicate à lancer. Pour leur part, les pays africains s'inquiètent de l'avancée de l'État islamique dans le sud libyen, une immense zone désertique, ce qui est en particulier dangereux pour le Niger et le Tchad, selon le chef de la mission de l'ONU en Libye, Martin Kobler. On passe à l'actualité hors d'Afrique. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré hier à Genève que l'épidémie du virus Zika, soupçonnée de causer des malformations congénitales, constituait une urgence de santé publique de portée mondiale. À l'issue d'une réunion exceptionnelle de son comité d'urgence, l'OMS a jugé qu'un lien existe entre ce virus transmis par un moustique et une hausse exceptionnelle des cas de microcéphalie, malformation congénitale dont souffrent les enfants nés avec une petite tête. Plus de précision avec Fadela Chaïb, porte-parole de l'OMS à Genève.
Ils se sont réunis par téléconférence. Ils ont décidé de déclarer que les désordres neurologiques et les malformations des enfants et des adultes est une préoccupation sanitaire de portée internationale, mais pas Zika. Zika est un virus qui ressemble à la dengue, au chikungunya et à la fièvre jaune et qui sévit dans beaucoup, beaucoup de pays depuis son apparition en 1947. Il ne constitue pas une préoccupation majeure de santé publique. Ce qui constitue une préoccupation majeure, c'est d'essayer de comprendre est-ce qu'il y a un lien temporel et spatial entre le virus Zika et l'apparition du syndrome de Guillain-Barré et la microcéphalie. La microcéphalie étant une maladie qui touche les enfants qui naissent avec des petites têtes. Est-ce qu'il y a un lien? Pour l'instant, scientifiquement, le lien entre Zika et la microcéphalie et les autres désordres neurologiques n'est pas prouvé, d'où l'importance de déclarer cela comme une urgence sanitaire de portée internationale afin d'expéditer les recherches et la mobilisation internationale pour essayer de voir est-ce qu'il y a un lien et s'il y a ce lien, comment en sortir.
On passe maintenant, il s'agissait bien sûr de Fadela Chaïb, porte-parole de l'OMS à Genève. On passe maintenant à la campagne électorale aux États-Unis. Dans le camp républicain, le milliardaire Donald Trump a trébuché. Côté démocrate, l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton a été accroché dans les caucus de l'Iowa. Première étape des primaires républicaines dans la course à des primaires américaines dans la course à la Maison-Blanche. Les résultats ont été médiocres pour les favoris des sondages, Anne Albertson.
Appelés à choisir leur candidat pour l'élection du 8 novembre, qui désignera le successeur de Barack Obama, républicains et démocrates se sont rendus en nombre dans les bureaux de vote de ce petit État agricole du Midwest. Dans les deux camps, et dès la prochaine échéance du New Hampshire, le 9 février, la lutte s'annonce âpre. L'ultra-conservateur Ted Cruz, vainqueur lundi côté républicain, tentera de capitaliser sur ce bon départ. Hillary Clinton, favorite avant le caucus de l'Iowa, était quasiment à égalité avec le surprenant sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Aucune télévision américaine ne s'aventurait à désigner un vainqueur entre les deux candidats, séparés par quelques dixièmes de points seulement. Les primaires du New Hampshire suivront donc la semaine prochaine, puis les autres États jusqu'en juin. Les candidats des deux partis seront désignés en juillet.
Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.